Musique. Que me veux-tu ? La chronique de Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Un demi-siècle maintenant, grâce à la vogue croissante du disque micro-sillon, les mélomanes découvraient la musique de Vivaldi. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ce qu'a été cette véritable révolution du micro-sillon. Avant, pour écouter des disques de musique classique jusqu'aux années 50, il fallait des disques 78 tours avec au maximum 4 minutes de musique par face, des disques qui pesaient 400 grammes et qui étaient fort cassables. Eh bien, tout d'un coup, ce qu'on a appelé le disque de longue durée a permis d'avoir une symphonie entière sur une face de disque, un opéra entier sur seulement 2 ou 3 disques en tout et pour tout. Ce qui veut dire que ça a été une sorte de pompe, tout d'un coup, pour découvrir un réservoir énorme de musique auquel on n'avait pas accès. C'est-à-dire que la culture musicale s'en est trouvée d'un seul coup énormément amplifiée. Alors c'est Vivaldi avec les 4 saisons qui vont devenir très rapidement une œuvre fétiche. On la joue partout, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais à juste titre, parce que c'est un chef-d'œuvre. La postérité ne s'est pas trompée, elle se trompe rarement d'ailleurs, et d'autres œuvres de Vivaldi, des concertos principalement, allaient suivre. Alors, on comprend bien que dans la mouvance de cette résurrection, certains éditeurs de disques aient eu à cœur de lancer une nouvelle vague de succès commerciaux, et pour ce faire, ils ont exhumé la musique d'un contemporain allemand de Vivaldi, non pas Bach, non pas Händel, mais leur ami Telemann. On pensait Bach et Händel connus, mais pas Telemann. Échec. Échec. À peine revenu en lumière, Telemann devait plonger à nouveau dans l'obscurité de l'oubli. Et il a fallu le grand mouvement de restitution des musiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, tout à fait à la fin du siècle dernier, du XXe siècle, ce mouvement que l'on dit baroque, pour que l'on explore très largement ses répertoires d'une immense richesse. Et d'ailleurs, on peut dire que, avec les connaissances nouvelles acquises récemment pour l'interprétation de cette musique, Telemann a été bien servi, très bien servi. Or, il se trouve que c'est un des compositeurs les plus prolixes de toute l'histoire de la musique, bien davantage encore que Darius Milhaud ou Villa-Lobos, qui ne savaient même plus combien d'œuvres ils avaient composées et qui en avaient même parfois perdu la mémoire. Mais écoutons bien Telemann. Que d'imagination chaque fois. Dans les idées, dans le style, dans les instruments, toujours une trouvaille ici ou là, une boutade, une facétie, un moment d'émotion inattendu, un instrument rare, une combinaison bizarre. Et tout cela au long des innombrables suites et des concertos de sa jeunesse, et dans lesquels on sent toujours Telemann d'autant plus libre qu'il savait jouer de tous les instruments, mais il n'était virtuose sur aucun. C'est lui-même qui le dit. Et donc, son invention n'est jamais prisonnière d'aucun cliché, d'aucun savoir-faire un peu mécanique. Sa musique se renouvelle sans cesse. Un auditeur distrait pourrait évidemment dire que c'est un peu toujours la même chose, comme quand on dit que Vivaldi a écrit 600 fois le même concerto ou Bach 200 cantates qui sont toujours les mêmes. Pas du tout. Il s'agit exactement du contraire. Thank you. Telemann était né à Magdebourg, en Allemagne du Nord, en 1681, dans cette fameuse génération autour de 1785 où sont apparus tous ces grands génies, Händel, Bach, Scarlatti, Rameau et tant d'autres. Musicien très précoce, il abandonne très vite ses études de droit pour la musique, d'ailleurs au grand dam de sa famille. Sa carrière décrit dès lors une magnifique courbe ascendante. 5 années à Leipzig, 3 ans Kapellmeister à Zorau, d'où il a l'occasion de séjourner 6 mois en Pologne et de découvrir les musiques populaires qu'il admire avec enthousiasme dans ce qu'il appelle leur barbare beauté. C'est une notion très neuve à l'époque où on admettait de belles musiques que celles de la cour ou celles des musiciens savants. Telemann trouve que ces musiques populaires qui viennent du fond des âges possèdent une barbare beauté et sont des trésors d'imagination. Il dit lui-même, quiconque aurait écouté ces musiques et aurait pris des notes pendant une semaine aurait de quoi nourrir son imagination musicale pour toute sa vie. On le trouve ensuite pour 3 ans encore comme concertmeister à Eisenach. Il est ensuite directeur de la musique à Francfort-sur-le-Main où il va rester 10 ans. Et dans chaque poste, il se fait apprécier, admirer même. Il crée un orchestre, il réorganise la vie musicale en lui donnant un nouvel essor. Et il lui faut toujours davantage pour que son talent s'épanouisse, ce qu'il va trouver enfin à Hambourg, la plus grande ville de l'Empire germanique, n'oublions pas, actif foyer économique, donc culturel. Il y est nommé directeur de la musique et cantor à l'école Saint-Jean, un poste en tout point comparable et à la même époque à celui que prend son ami Bach à Leipzig, mais en plus important encore. Et lorsqu'il arrive à son poste à Hambourg, Telemann a déjà composé beaucoup de musique religieuse. Mais il va se trouver ici confronté à une tâche écrasante. Toujours comme l'ami Bach à Leipzig, fournir les 5 églises principales de la ville en musique sacrée pour tous les dimanches et fêtes de l'année, et en particulier une nouvelle passion tous les ans. Il va rester en poste à Hambourg jusqu'à sa mort, à 86 ans, durant 46 ans, ce qui veut dire 46 passions différentes, et il en avait déjà écrit 12 auparavant. Mais il ne s'agit quand même pas, je l'avoue, d'œuvres aussi riches et aussi complexes que celles de Bach. N'empêche. Mais la grande affaire pour Telemann à Hambourg sera la direction de l'opéra. c'est son domaine de prédilection. Il aime parler en musique des joies et des peines, des hommes, des amours et des haines. Il a le sens du théâtre autant que du pittoresque. À 12 ans, à Magdebourg, il était encore à l'école, il avait composé un opéra, Sigismond, qu'il avait fait exécuter par ses condisciples. Et plus tard, dans un de ses récits autobiographiques, il écrit ceci. « Je fus assez fou pour le faire chanter et le mettre en scène, et, passablement opiniâtre, j'y tins moi-même le rôle de mon héros. » Il ajoute, non sans un petit clin d'œil, un sourire, « J'aurais bien envie maintenant de voir cette musique. » Parce qu'il l'avait perdue entre-temps, il pensait que ça ne devait pas être très très fort. Mais quand même, à 12 ans, écrire et mettre en scène un opéra et chanter le rôle principal. La famille ne manque pas de lui promettre un avenir de charlatan, ça va de soi, mais quelques années plus tard, dans son premier poste à Leipzig, il va prendre la direction de l'opéra récemment fondé, et il n'a encore que 21 ans, ce directeur d'opéra. Sitôt arrivé à Hambourg, 20 ans plus tard, il va s'emparer à la hussarde de la direction du théâtre d'opéra, qui est le plus ancien de toutes les terres germaniques, fondé un demi-siècle plus tôt. Dans la grande cité de Marchand, qui est alors Hambourg, le théâtre Am Gänsemarkt, au marché aux oies, propose toutes sortes d'ouvrages contemporains, où se mêlent des airs en langue italienne, puisque c'est la langue par excellence de l'opéra, des récitatifs en allemand, pour que tout un chacun comprenne l'intrigue, et Dieu sait si parfois elle est très confuse et embrouillée, et des chœurs à l'antique en français. Opéra sérieux, opéra bouffe, on aime beaucoup rire à cette époque, comme aujourd'hui, peut-être davantage, et puis des ouvrages où se mêlent les genres, comme les langues. De Telemann, on connaît aujourd'hui 8 ouvrages lyriques, mais il pourrait en avoir composé une centaine, non seulement pour Hambourg, mais aussi pour Francfort, pour Bayreuth et pour Eisenach. Le tout premier ouvrage qu'il fait représenter à Hambourg s'intitule « La patience de Socrate », qu'il avait d'ailleurs écrite un petit peu auparavant. C'est une farce, un opéra bouffe avec un héros de l'histoire antique et des personnages empruntés à l'Antiquité, un peu comme le fera plus tard un Offenbach, moins peut-être les allusions à la société contemporaine qu'affectionne tellement Offenbach et son public. Les intrigues sont innombrables, elles sont invraisemblables et prétextent à des scènes cocasses et réalistes. Par exemple, les deux femmes de Socrate, il apparaît-il deux femmes, dont la célèbre Xanthippe, qui en viennent à se tirer les cheveux pour être, chacune, la première à se contempler dans un miroir, malgré les objurgations d'un Socrate bien débonnaire qui n'en peut mais.
Versprechen. Lass los, geht mir der Spiegel her.
Ich will nicht, sag ich dir, zu besseren Seelen. Nein, sag ich dir, das leid ich nimmer mehr. Was meinst du, muss denn dies, was du willst, stets geschehen? Was meinst du, dass ich dir denn allzeit weichen muss?
Vergleich euch doch, oh Überdruss!
Wie du zuerst uns in den Spiegel schauen, der Gesicht in den Augen aus!
Ertrag euch doch, ihr lieben Frauen, macht doch nicht abermals solch einen Lärm im Haus! Ich will, um allen Zwist zu heben, zu diesem Spiegel euch noch einen anderen geben, dass jeder sich besonders spiegeln kann.
So wie ich so geht es an, jedoch das meine Land gleich groß, gleich klein.
Ja, ja.
Dass keiner hier als wie der andere denkt.
Nein, nein.
Dass wir in jedem auch gleich schön glücklich sein.
Denkt doch, ihr hört ja, was ich euch verspreche.
Was ich auch angefasst im gleichen Rat.
Ja, doch. Ins Henkers Namen.
So ich dir vertraut und ich dir Freuden ein.
Ihr Männer lernet doch bei Zeit geduldig sein.
L'entreprenant Telemann mène sa carrière tambour battant, mais nullement dans le but d'un profit personnel, parce qu'il a, chevillé au corps, la rage d'entreprendre et de réussir, pour la musique, pour le bonheur et le service d'autrui. C'est un homme très généreux. On n'appartient pas pour rien à une famille qui compte 5 générations de pasteurs. Pour être plus efficace, il crée même son propre atelier d'édition musicale. Il va utiliser de nouveaux poinçons venus d'Angleterre, plus lisibles, plus faciles à manier. Et c'est ce qui va lui permettre de publier, entre autres, une revue de musique constituée de petits fascicules bimensuels de 4 pages qui offre à ses lecteurs des morceaux de musique à jouer à la maison. C'est très intéressant parce que ça a été entièrement réédité à l'identique. Alors, je les ai consultés personnellement et on peut d'abord constater que c'est écrit à l'intention des amateurs, puisqu'à l'époque, tout un chacun pratique la musique. Et puis, son intention apparaît très clairement dans le titre même qu'il donne à ce périodique. Le fidèle maître en musique. C'est écrit en français, ce qui est plus élégant à l'époque. Et voilà ce qu'il ajoute. Le fidèle maître en musique, lequel s'adresse tout autant aux chanteurs qu'aux instrumentistes par toutes sortes de morceaux de musique pour les différentes voix et presque tous les instruments en usage, ainsi que des airs moraux, des airs d'opéra et autres, et de même que des trios, duos, solos, etc., des sonates, ouvertures, et puis des fugues, des contrepoints, des canons, etc., avec la plupart de ce qui se peut rencontrer de sérieux, d'animé et de plaisant dans les styles italien, français, anglais et polonais, présenté en une leçon tous les 15 jours par Telemann.
Thank you.
Mais tout cela ne suffit encore pas à l'activité débordante de Telemann. Il est fixé dans une métropole, mais il n'en oublie pas pour autant les toutes petites villes de cette terre allemande, encore fortement rurale, telle qu'il en a connue dans sa jeunesse, modeste cité, aux faibles ressources musicales. Un organiste sans doute pas très expérimenté, des chanteurs, à peine, quelques violonistes peut-être, un instrument à vent ici ou là. Et ce n'est évidemment pas le maître d'école du village qui pourra composer une cantate pour le dimanche suivant. Alors, Telemann se met en devoir de fournir aux humbles bourgades des recueils de cantates simples pour un chanteur ou une poignée d'instrumentistes auxquels on ne demandera pas trop, mais avec la qualité musicale d'un très grand maître. Il en publie des recueils entiers. Il va au long de sa vie composer ainsi quelques 1300 cantates répandues loin à la ronde. Au milieu du siècle, le théoricien Adlung peut écrire que sa musique spirituelle a rencontré une approbation si universelle qu'il n'est guère d'église en Allemagne où des cantates de Telemann ne soient exécutées. Et puis, il y a des recueils plus ambitieux, comme ce vaste ensemble qu'il nomme « Musique de table », l'un de ses chefs-d'œuvre. 254 pages, pas moins. Le titre est rédigé en français, une nouvelle fois, et lui-même en assure la gravure. Publié en 1733, le recueil doit confirmer la notoriété internationale du compositeur et lui rapporter de l'argent dans une passe difficile de son existence. Le volume de 18 pièces rassemble suites orchestrales, quatuors, concerts, trios et solos pour toutes sortes d'instruments. Et en tout cela s'épanouissent les qualités du musicien, diversité des épisodes, variété, vitalité et poésie, charme et élégance, simplicité et naturel. Le discours se renouvelle sans cesse, avec ses épisodes imprévus, parfois humoristiques, ses dialogues insolites d'instruments, et toujours une volonté de séduire immédiatement les auditeurs. Et si d'ailleurs ce polyglotte musical qu'était Lehmann parle ici surtout le français, c'est à bon escient. Un peu avant cette musique de table, en 1730, Telemann avait rassemblé un volume de six quadrilles, des morceaux en quatuor destinés aux professionnels les plus distingués. Publié à Hambourg, le recueil connaît aussitôt un succès tel que de nouvelles éditions se multiplient. À Paris, l'éditeur Leclerc les publie en 1736, sous le titre de « Six quatuors à violon, flûte, viol ou violon de sel et basse continue ». C'est que par les quatuors, par l'édition, dont de nombreuses éditions pirates, les musiciens français connaissent bien la musique de ce monsieur Telemann, comme on l'appelle chez nous, et qu'ils l'aiment au point d'inviter le compositeur à se rendre en France, avec insistance. Ce qu'il va finir par faire, alors qu'il commence à sentir le poids des ans, et surtout d'une activité trépidante et incessante. À 56 ans, il s'offre donc un séjour en France. Il va rester 8 mois à Paris. Toujours infatigable, il compose pour les auditions du grand orchestre parisien nommé le Concert Spirituel un grand motet sur le psaume 71 « Deus Iudicium Tuum » qui sera exécuté 2 jours de suite avec le plus grand succès. Il se trouve que 2 semaines après son arrivée à Paris, le grand Jean-Philippe Rameau fait représenter à l'Opéra un nouvel ouvrage, Castor et Pollux. Aucun de témoignages ne l'atteste, mais il paraît évident que les deux géants contemporains de la musique européenne se sont rencontrés, qu'ils ont dû échanger des idées, et cela d'autant que Telemann parlait et écrivait parfaitement le français, qu'il était comme Rameau, passionné de théorie musicale, et qu'ils avaient le même âge. Telemann se prend de passion pour la tragédie lyrique française et il en débattra par écrit avec son contemporain Graun pour la défendre, en précisant que si l'on ne connaît pas parfaitement la langue française, on ne peut pas en percevoir toutes les subtilités d'écriture. Et comme toujours, une fois à Paris, Telemann reprend son activité de compositeur et d'éditeur, il obtient un privilège royal pour 20 ans et publie par souscription un magnifique recueil de 6 nouveaux quatuors, aujourd'hui appelés pour cette raison quatuors parisiens. La liste des 300 souscripteurs montre le rayonnement européen du musicien. Si au retour de ce voyage si enrichissant pour lui, Telemann reprend son activité, il va bientôt prendre une sorte de retraite, n'assurant que le minimum de sa tâche, ce qui est déjà considérable. Mais il a constitué un tel répertoire d'œuvres musicales qu'il peut assurer ses fonctions en puisant dans ce vivier qui semble inépuisable. Le voici qui envisage d'écrire des traités de théorie. On ignore d'ailleurs s'il l'a fait et l'on n'en possède aucune trace. Et puis il se passionne pour la botanique, une passion très répandue. Alors, il faut cultiver notre jardin, dit alors Voltaire, et c'est ce que fait Telemann. Il a un jardin, il correspond avec le directeur du jardin botanique de Berlin. Il se fait envoyer d'Angleterre des bulbes et des plants par l'entremise de son ami Hendel, avec qui d'ailleurs il correspond en français, c'est curieux, pour deux Allemands, dont un vit en Angleterre. À un autre ami, il écrit « Je suis insatiable en fait de jacinthe et de tulipes, avide de renoncules et surtout d'anémones, et désireux de la plupart des plantes à bulbes. » Et puis il joint à ses lettres, c'est très amusant, la liste de toutes les plantes dont il dispose déjà. C'est aussi l'époque où on sait que Anna Magdalena Bach se passionnait pour le jardinage. C'était sa seule distraction apparemment dans une vie très chargée. Et elle avait une prédilection pour les œillets jaunes. Voilà ce que nous apprennent les chroniques du temps. Mais Telemann est seul. Sa première épouse est morte très jeune. La seconde l'a quitté en ne lui laissant que des dettes considérables. Et de ses 10 enfants, ne subsiste guère qu'un fils pasteur qui disparaît à son tour. À 74 ans, le musicien recueille chez lui son unique petit-fils, Georg Michael Telemann, 7 ans. Et il s'en occupe comme d'un fils. Que s'est-il passé? La jeunesse de cet enfant qu'il chérit en est-elle la cause? Après 15 ans d'une activité créatrice ralentie, le musicien revient à la composition, dans l'éclat d'un splendide été de la Saint-Martin. Une sève juvénile monte en lui. Il revient à la création, non pour reprendre le labeur harassant de ses années de galère, ni pour les divertissements. En lui reposent désormais les destinées de la musique allemande, dans ce qu'elle a de plus élevé. Alors que Bach est mort, que son vieil ami Händel, gagné par la cécité, a cessé d'écrire. C'est avec le grand genre de l'oratorio qu'il va couronner sa vie de créateur. Le vieil homme, septuagénaire, bientôt octogénaire, compose alors ses chefs-d'œuvre spirituels et fait extraordinaire dans un langage très neuf, très proche de ce que sera celui de Joseph Haydn. Il médite sur la mort du Christ, sur la résurrection, sur l'ascension, la résurrection des morts, le jugement dernier. Ce seront ses derniers mots. Il médite sur les fins dernières, sur la vie de l'au-delà, et il mourra en pleine gloire à 86 ans. En conclusion de son oratorio de la résurrection, il a peu avant proclamé dans un enthousiasme juvénile « Chantez des chants de joie au Seigneur, le Seigneur est ressuscité. »